pour lui, on est au bout du monde. Hein. C'est une idole. Je le suis depuis que je suis gamin. C'est tatoué sur mon bras, c'est tatoué dans mon cœur aussi. C'est un peu mon père, mon frère, c'est la cerise de mon gâteau, c'est la plume sur mon chapeau aussi. C'est de l'adoration à 100% à l'état pur. Ça, c'est unique, ça.
Ans d'histoire. Il y a les yéyés des années 60 qui, grâce à lui, ont découvert le rock au Golfe Drouot et le premier concert géant sur la place de la Nation. Il y a leurs enfants qui l'ont vu au Palais des Sports ou à Bercy dans les années 80. Et il y a leurs petits-enfants qui étaient avec leurs parents et leurs grands-parents venus l'écouter avec 400 000 spectateurs devant la Tour Eiffel le 10 juin 2000. Il y a même ceux qui ne l'ont jamais aimé, qui n'ont jamais acheté un de ses disques et qui ne l'ont jamais vu en concert, mais qui sont bien obligés de reconnaître qu'aucun chanteur n'a eu autant de succès que lui et depuis si longtemps qu'il est le seul à avoir marqué plusieurs générations de Français. Jusqu'à ce qu'il décide un jour de tirer sa révérence après 800 chansons et 50 ans passés sur la scène. France Inter, Bruno Duvic, le 3 décembre 2007.
France Inter. Il a 64 ans, c'est peut-être la plus grande vedette de la chanson française. Avant de repartir en tournée l'an prochain, Johnny avait une annonce importante à faire hier soir sur le plateau de TF1.
Là, je me suis rendu compte quand même que quand je vais faire ma tournée en 2009, ça sera 50 ans de scène que j'aurai faite. Ça m'a fait tout drôle de penser ça. Ce sera ma dernière tournée. D'abord, j'ai trop le respect du public pour un jour devenir trop âgé pour aller sur scène, faire du rock'n'roll, et puis je voudrais pas devenir pathétique, quoi. Bon, je voudrais que les gens gardent une image de moi telle que je l'ai toujours été. J'ai pris cette décision, pas de gaieté de cœur. Je sais que le public va me manquer. Il y a bien un jour, il faut s'arrêter, quoi.
Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Pour exprimer ce qu'est le blues, j'y mets mes joies, moi j'y mets mes peines, et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime, je le chanterai toujours.
Philippe Bodjou, bonjour.
Bonjour.
C'est une des plus célèbres chansons du répertoire de Johnny Hallyday auquel vous venez de consacrer un livre publié chez Flammarion et qui s'intitule tout simplement Johnny, comme s'il n'y avait qu'un seul Johnny en France, comme si le prénom suffisait pour qu'on sache exactement de qui il s'agit. C'est plus qu'un chanteur, dites-vous, c'est un lieu de mémoire.
Oui, c'est un personnage de notre panthéon national. Un jour, je pense qu'il faudra transférer ses cendres. Sérieusement, quoi, je le dis même pas vraiment pour plaisanter, parce que je crois qu'il est infiniment lié à notre existence commune et à l'addition de notre existence individuelle maintenant.
Et à l'existence de plusieurs générations.
Plusieurs générations.
C'est assez rare dans l'histoire de la chanson
française.
C'est une
de nos balises temporelles les plus importantes, je crois, maintenant.
Alors, Johnny, qui n'est ni Johnny ni Hallyday, mais Jean-Philippe Smet, hein, né à Paris en 1943, il y a 66 ans à quelques jours près. Philippe, parce que c'était le nom du maréchal Pétain qui gouvernait à l'époque, et Smet, parce que c'était le nom de son père qui l'a abandonné quand il avait à peine 8 mois. Philippe Bodjou, ce qui a dû être une blessure, évidemment, pour lui.
Oui, bien sûr, ça a été terrible et il s'en est jamais relevé. Je ne sais pas si on s'en relève, mais lui n'y a pas réussi. Il l'a dit souvent, quoi. Il a un problème avec son père parce que son père n'a pas disparu complètement. Il a toujours été dans un écho de sa vie. Souvent, il a fallu même que Johnny s'occupe de son père, qui était dans un état physique, moral et psychologique très délabré. Et donc, c'est pas vraiment un abandon, c'est une inexistence tout au long de sa vie, quoi. C'est certainement plus terrible.
Et même une existence de la mère qui ne peut pas s'occuper de lui, si bien qu'il est recueilli par sa tante, hein, la sœur aînée de son père, Hélène Mars. C'est elle d'ailleurs qui a fait de lui un chanteur.
Oui, c'est une femme assez étonnante pour l'époque en tout cas, parce qu'elle considérait que tous les siens devaient épouser une carrière artistique. Elle était à l'encontre de tout ce qu'on pouvait connaître dans les familles. Et donc, elle a deux filles dont elle fait les danseuses. Et derrière ces deux filles, elle décide que Johnny, son petit protégé, son neveu, sera lui aussi soit danseur, soit chanteur. Et au lieu d'aller à l'école, il apprend la musique, le solfège, la guitare, le violon.
Et il commence à se produire d'ailleurs avec une de ses cousines, avec Desta, et son mari qui s'appelait Lemon Ketchan, mais qui se fait appeler Lee Hallyday. C'est de là que vient d'ailleurs le nom de Johnny.
Tout à fait, à une consonne près, parce que le nom à l'origine, Hallyday, se prenait un I, et ils se sont trompés sur une pochette de disque et on a eu droit à l'Y. Définitif.
De Y. Alors, il très tôt, il gratte de la guitare, il chante des chansons de cow-boy. On le voit en photo dans votre livre, avec tout petit, avec une petite casquette, chapeau de cow-boy. Il chante Davy Crockett. Il chante également un peu plus tard du Brassens. Et puis alors, une musique nouvelle pour l'époque, le rock venu d'Amérique, est plutôt mal accueilli en France à la fin des années 50, Philippe Boggio.
Oui, très mal accueilli, même quasiment interdit. C'est à la fois sur le plan économique, parce que tout ça met encore du temps à être importé. On trouve très très peu de disques qui sont très chers. Il faut passer par les troupes américaines qui sont basées en Europe pour s'en procurer. Et aussi parce que la France va être très réactive à cette musique tout de suite, c'est-à-dire dans les radios, dans le journalisme. Tous les gens qui défendent un peu la chanson et la musique en France se cabrent immédiatement contre le rock.
Ce qui n'empêche pas donc Johnny de choisir le rock. C'est grâce au rock qu'il va devenir célèbre du jour au lendemain, grâce à un premier disque et un premier succès qu'il chantait pour sa première apparition à la télévision. C'était le 14 avril 1960 dans l'émission d'Aimé Mortimer, l'école des vedettes. La vedette ce jour-là, c'était Lynn Renault, mais elle était accompagnée d'un jeune homme timide dont presque personne ne connaissait encore ni le nom ni la voix.
Eh bien, ma petite Lynn Renault, il faut maintenant présenter aux téléspectateurs le jeune Johnny Hallyday, qui est votre filleul et qui vient de chanter. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois.
17.
17, vous voyez, ça change tout. Ben, je voudrais bien poser des questions à mon filleul, mais je vous préviens tout de suite, Aimé, il répond par oui ou par non.
Hein? C'est monsieur oui, non?
C'est monsieur oui, non. Et je crois qu'on doit ça à la timidité de ses 17 ans.
Pourquoi s'appelle-t-il Johnny Hallyday?
Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser.
Oui, mais le père est américain, je suppose.
Le père est américain et la maman française. Est-ce que c'est votre première chanson?
Oui, c'est ma première chanson.
Vous pensez en faire d'autres, bien sûr.
Bien sûr.
Laisse les filles. Ça vous intéresse, les filles?
Mais vous n'avez pas vu tout
bien
à l'heure ce qu'il faisait avec
comment
les filles?
Comment? J'ai pas compris.
Bien sûr, bien sûr.
Ça y est, il a dit autre chose que oui ou non. Il a dit bien sûr. Ah, c'est bien, Johnny, vous faites des progrès déjà, voyez-vous. Moi, je vous ai présenté mon filleul avant de savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. En tout cas, on lui dit bonne chance.
Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'empêtements, toi, moi. Les filles. J'ai beau
penser. Et c'était en 1960, il y a pratiquement 40 ans, le premier grand succès de Johnny, Laisse les filles. Ce qui est extraordinaire dans ce passage, dans le passage que vous venez d'entendre, dans le premier passage d'ailleurs de Johnny à la télévision, c'est qu'il n'est pas plus loquace aujourd'hui qu'il ne l'était hier. C'est sa timidité qui contraste avec l'assurance dont il fait preuve dès qu'il se met à chanter, Philippe Boggio.
C'est même un mutisme, c'est-à-dire que c'est extraordinaire. On connaît peu de gens de timides qui soient aussi brillant et extraverti dans une expression artistique. Quoi. Lui, c'est vraiment le très très grand écart. J'en connais pas beaucoup d'autres. On a comparé à Brassens sur ce plan-là ou à Gainsbourg. Je crois que c'est pire. Quoi. Il a été toute sa vie un garçon qui n'a pas pu s'exprimer oralement et qui, sur scène, est d'une totale clarté. Quoi. Il est d'un magnétisme extraordinaire. Il a du rythme, de la chanson, de la conviction. Mais dans la vie, il perd ses mots, il n'a pas de mots. On a cru longtemps que c'était quelqu'un qui n'était pas intelligent. C'est une erreur. C'est un garçon vraiment plutôt intelligent et cultivé, mais qui ne sait pas s'exprimer devant les autres.
Alors après ce passage à la télévision, le succès est immédiat, Laisse les filles se vend je ne sais combien de milliers d'exemplaires. Il est au fond Il se met à chanter, à avoir du succès dans le rock, mais il n'est pas seul. Vous le rappelez, au même moment, on voit apparaître Richard Anthony, Eddie Mitchell, les Chaussettes Noires, Dick Rivers, les Chats Sauvages, Gene Vincent, Vince Taylor. Qu'est-ce qui fait que c'est lui qui a émergé alors que la plupart des noms que je viens de citer, on les a un peu oubliés, Philippe Boggio?
D'abord parce qu'il est le premier à se lancer. Ça se joue à quelques mois, effectivement. En 60, il fait la première émission de télévision. Il va faire les premiers concerts. Les autres vont suivre, mais il a déjà marqué la France. En tout cas, une frange de la jeunesse qui émerge, la fameuse adolescence du baby-boom, qui vont le coopter, notamment en province. Et je crois que ça, c'est le premier phénomène. Et ensuite, parce que c'était pour les filles le plus beau, le meilleur danseur, et celui qui a été le plus longtemps fidèle au premier rock des années 50 d'Elvis Presley, de Gene Vincent. Il l'a toujours, même s'il a dû évoluer. En tout cas, il est resté constant par rapport au rock.
Ouais, enfin, il ne plaît pas à tout le monde. Hein. Vous vous rappelez qu'en 1961, cet article de Mauriac qui écrit « Ce frénétique à peu de voix, le seul chanteur à ma connaissance qui articule mal, on ne perd pas un mot de ce que chantent les autres, mais chez celui-là, rien de perceptible que des cris d'un délirium très mince, érotique et érotique à froid, il ajoute cette pitoyable jeunesse qui hurle et qui casse tout. » Hein, il n'avait pas que des amis, en tout cas.
Il a été très mal accueilli par les adultes.
Oui, oui. Alors, s'il plaît en tout cas aux jeunes, en revanche, les adultes et leurs parents ont plutôt peur de ce jeune homme en blouson noir et des désordres que provoquent ses concerts quand il passe Salvagram au Palais des Sports ou plus tard également à la Place de la Nation en 1963.
Vous n'avez peut-être pas compris, mesdames, messieurs, le phénomène actuel du rock'n'roll, cette espèce de typhon qui passe sur la jeunesse européenne après avoir secoué la jeunesse d'Amérique. Johnny Hallyday, devenu en quelques mois la vedette numéro 1 du musical français, recordman de la vente de disques, vous l'expliquera peut-être dans un instant.
Vous avez quel âge, Johnny Hallyday?
Bien, j'ai eu 18 ans, il n'y a pas tellement longtemps.
Il y a un côté, indéniablement, j'emploie le mot à dessein, blouson noir dans le rock actuellement. Est-ce que vous pensez que ces gens qui sont en train de casser les fauteuils et de hurler, n'est-ce pas, quand vous chantez, est-ce que vous pensez que ces gens-là sont ce que les Américains appelaient de la graine de violence?
Non, pas du tout, je ne crois pas. Non. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans les salles sous l'idée de faire du chahut, soit comme prétexte parce qu'il y a du rock'n'roll, mais ils casseraient aussi bien des fauteuils ailleurs.
Eh bien, maintenant, voici Johnny Hallyday.
Sur le cours de Vincennes, des places de la Nation à Paris, on dresse aujourd'hui le triste bilan de la nuit du twist.
Oui, une voiture entièrement disloquée, 9 vitrines brisées, 2 becs de gaz abattus par les fans qui s'étaient déplacés en nombre, on parle même de 200 000, on doit un peu exagérer, et qui ont applaudi Johnny, Sylvie et Richard. Enfin, ce qui est plus grave, une jeune fille de 17 ans a été violentée, place de la Nation. Elle a dû recevoir des soins à l'hôpital et le commissaire de police du quartier a ouvert une enquête.
Et c'était le concert de la Nation en 63, un grand moment dans la carrière de Johnny Hallyday, et puis aussi pour toute une jeunesse, Philippe Bourgeois. Ce concert de la Nation, vous le rappelez, c'est le premier concert géant, le premier concert gratuit, au fond, de l'histoire du rock.
C'est le premier grand rassemblement parisien pacifique et musical.
La pacifique, pas tellement, si on vient d'entendre.
Oui,
si on croit
vous avez entendu une voiture. Depuis, on a fait nettement mieux. Non, je crois que c'est beaucoup plus encore qu'un événement musical. C'est un événement sociologique. C'est symboliquement la prise de revendication de l'adolescence, de sa sexualité, de son désir de liberté.
Cinq ans avant 68,
oui. Ouais. Et on sent bien, depuis la libération, qu'il y a des petites avant-gardes. On a parlé de Boris Vian, on a parlé des caves de Saint-Germain. Et il a fallu certainement que le phénomène mature, notamment en province. Et ce jour-là, place de la Nation, on attendait 10 000 ou 15 000 personnes. Il en vient 200 000. Et on va d'abord penser que c'est pour une musique de sauvage, diront les parents et dira la presse. Et on s'apercevra très vite que c'est plus profond, que c'est un désir de vivre différemment et de mettre de la couleur dans la vie de ces années, début des années 60, qui sont encore en noir et blanc. Et ça suffit, disent les jeunes, et ils vont le montrer 5 ans plus tard.
Avec le rock, avec le twist. C'est d'ailleurs juste après le concert à la Place de la Nation que Philippe Bouvard, qui n'était pas inspiré pour une fois, disait « Quelle différence entre le twist et les discours d'Hitler au Reichstag ?»
Oui,
c'est-à-dire à quel point ils font peur quand même, ces jeunes de l'époque.
Oui, parce qu'il y a quand même quelques débordements en fin de concert, et on parle surtout du blouson noir. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, les parents ne veulent pas voir que leur fille aînée est en train de danser et de chanter au premier rang du concert. Ils veulent voir surtout la casse, les blousons noirs, la délinquance. Et c'est le début d'une chronique de faits divers qui dure encore.
Et les débuts du twist après le rock, et puis de toute une série de succès qui ont fait de Johnny Hallyday le chanteur le plus populaire des années 60.
Salut les copains!
Qu'est-ce qui plaît le plus aujourd'hui?
Le twist, naturellement.
Venez les copains! Tapez les mains, oui! On va faire le twist! Faites comme moi! Tu vis bien mes pas! Rythme le twist, oui! Donne-moi la main là!
Ah, j'ai une idée! Pour s'amuser, je connais l'endroit!
Pour danser le money, ça twist!
Retiens! Jusqu'à la fin du monde,
pour moi la vie va commencer.
Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envient, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie.
L'amour s'en va, Dieu, tout est fini. Da-du, run, run, da-du, run, run. Ne pleurez pas, laissez tomber, tant pis. Da-du, run, 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 da-du, run, run.
Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer.
Et c'est un pot-pourri concocté par notre réalisatrice Anne Kobilac, des chansons entre 62 et 64. On voit là l'extraordinaire variété des chansons de Johnny Hallyday pendant une très brève période, Philippe Bolgeau, et qui ont tout été de très grands succès.
Oui,
dans des styles différents, il y a du slow, du Madison, du twist, il y a le pénitencier, énorme succès.
Il prend tout ce qui vient d'Amérique. Il est entré chez Philips, où les gens sont astucieux, et on n'oublie pas derrière le rock de lui faire chanter du twist. Dès qu'une mode s'approche, comme le Mashed Potatoes, on va lui écrire des chansons pour lui. Donc, et on va surtout, et par exemple Aznavour va le faire aussi, on va lui écrire des ballades country qui viennent souvent des États-Unis. Et donc il est très vite un chanteur accessible pour presque les adultes ou les grands. Pour passer à la télévision, il faut qu'il présente autre chose que son rock le plus dur qu'il montre sur scène. Donc c'est une sorte de, comme ça, de moyenne, de négociation entre la violence du rock le plus pur avec tous les airs qui commencent à devenir à la mode et qui pénètrent le marché français, qu'on a appelé le temps des yéyés. Mmh.
Les yéyés, puis alors, et en plus avec la caution quand même de quelques grands noms de la chanson. Dans un genre différent, qui d'ailleurs, dont certains vont écrire pour lui, que ce soit Aznavour, que ce soit Brassens, par exemple, ou Brel même, qui n'aime pourtant pas le rock.
Non, ces gens-là n'aiment pas le rock, mais ils sentent que ce garçon a quelque chose en lui, qu'il faut l'aider, et Brassens et Brel vont lui prêter leurs mots dans des interviews. Ils vont souvent se mettre en colère quand Johnny Hallyday sera trop attaqué par la critique. Ils viendront le défendre parce qu'ils ont compris qu'il n'avait pas le pouvoir des mots et qu'il fallait le laisser chanter.
Chanter avec un succès énorme, succès d'ailleurs qui aurait pu compromettre son service militaire en 64. Il fait comme tout le monde, il part au service.
Oui, il a échappé.
Comme Elvis d'ailleurs, comme Elvis Presley.
Comme Elvis, comme Eddie Mitchell qui lui a connu la fin de la guerre d'Algérie. Cette justesse pour Johnny, on lui accorde quand même un sursis, mais on l'envoie en Allemagne quand même.
Sergent Smith.
Ce fringant sous-officier, c'est le sergent Jean-Philippe Smet, plus connu dans le civil sous le nom de Johnny Hallyday.
Garde à vous !
Repos ! Ah oui, que je suis à mon aise, quand j'ai mamie auprès de moi, de temps en temps je la regarde et je lui dis, embrasse-moi, embrasse-moi.
On
la mairie de Loconville et dans la plus stricte intimité, Sylvie Georges Vartan, dans une robe d'organdi qu'elle n'a pas cousue point par point, va prendre pour légitime époux Jean-Philippe Léo Smet, plus connu sous le nom de Johnny Hallyday. Actuellement militaire en Allemagne, Jean-Philippe Smet a obtenu une permission spéciale.
Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage.
Johnny, un petit mot.
Je suis très heureux.
Sylvie, Madame Smet, juste deux mots après avoir dit ce oui. Je suis très heureuse, très très heureuse.
Mon anneau d'or, quand tremblant, j'ai glissé à ton doigt, il était fait pour toi.
Mon anneau d'or, c'est une des chansons les moins connues de Johnny Hallyday, chantée à l'occasion de son mariage en 65. C'était vraiment le mariage et le couple de l'année, hein, Sylvie et Johnny.
On a souvent dit que c'était même une création de la presse et des médias de l'époque, tellement on a souhaité ardemment les unir. Quoi. On les a appelés les petits fiancés, ça a duré 2 ans, tout le monde a prié pour que l'union aille jusqu'au bout. Et en fait, il y a eu vraiment un mariage devant la presse et les amis. Et bon, hélas, très vite, ça s'est mal fini parce que Johnny a montré plusieurs fois sa difficulté à rester un homme marié, à se plier à cette vie conjugale. Il aura toute sa vie des problèmes avec ça. Mais c'était une sorte de récompense fleur bleue pour toute la France. Parce que ce mariage avait été très, très désiré.
Très désiré. Un mariage à la suite d'une rencontre sur un plateau de cinéma, en fait. Parce qu'on n'en a pas parlé, on en parle peu, mais il avait fait du cinéma, il n'avait pas attendu la fin de sa carrière pour faire du cinéma. Il a fait du cinéma très tôt, il a même fait du cinéma avant de chanter Philippe Boggio.
Oui, oui, il a été un enfant comédien. Il a tourné comme ça, il a fait de la figuration et... dès ses premiers mois de chanteur, il se retrouve à chanter dans des films. C'est-à-dire qu'il devient un peu... C'est le même phénomène qu'aux États-Unis pour Elvis Presley. On se débrouille pour fabriquer des scénarios qui prennent en compte une ou deux chansons d'un chanteur à la mode. Et c'est le cas pour lui.
Alors c'est un homme, vous le disiez, qui est déchiré en fait entre son côté un peu fleur bleue, une vie difficile avec Sylvie et surtout pour Sylvie Vartan. Hein, il retombe un peu dans ses démons qu'il a d'ailleurs rencontrés très tôt. C'est l'alcool, la drogue, les filles de passage. C'est assez pathétique. Il est d'ailleurs le premier chanteur à avoir reconnu qu'il se droguait.
Oui,
plus tard, il l'a fait, mais il l'a reconnu.
Il a reconnu qu'il a pris de la cocaïne. Ça lui a coûté assez cher parce que le milieu du showbiz est quand même un milieu très conservateur où on n'aime pas dire la vérité. Mais c'est parce qu'en 1960, il s'est retrouvé à Londres au milieu des Rolling Stones, des Beatles, avec David Bowie. Tous ces gens-là étaient des amis. Pour lui, c'était le petit français de la bande des Anglais. Et comme tout le monde s'est mis à la drogue, il s'est mis à la drogue. Voilà, ça a commencé comme ça. Et comme il tournait et travaillait énormément, comme il chantait assidûment tout le temps, la drogue et l'alcool ont été des compagnons.
Et les filles également, hein, prêtes à tout pour le voir partout où il passait.
Daniel dans la fosse au lion, ou plutôt Johnny Hallyday en proie au moins de 15 ans, une histoire qui se passe de commentaires.
On le considère pas comme un homme normal d'ailleurs, hein. C'est notre idole, c'est notre idole. Moi je trouve qu'il a des pulls formidables.
La façon de s'habiller.
Il est généreux, il est gentil.
Oh là là, oh oui, il est très généreux, hein.
Oui, il est généreux.
Oh oui, parce qu'une fois, il y a des clochards.
Il y avait un clochard dans la rue et il lui donne de l'argent, 1000 francs.
Moi j'avais réussi à avoir une cravate à l'Olympia, il me l'avait donnée, puis on me l'a fauchée. Je l'avais gardée, je ne l'avais pas lavée, elle est restée mouillée pendant 2 jours. Il y avait sa sueur, ça sentait bon.
Et je suis seul. J'ai besoin d'une fille qui m'aime. J'ai besoin de la sentir tout contre mon corps. Oui, tout contre mon cœur. J'ai besoin de le faire.
Et c'était Johnny Hallyday en 66, c'était pour meilleurer sa forme, Johnny un peu inattendu, hein, à la fois célèbre, idolâtré, on l'a entendu, et en même temps parfaitement seul, et vraiment seul. Il a même tenté de se suicider en 66.
Oui, en 66, oui. Très fragile, il a toujours été un garçon, un adolescent et un homme fragile. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était ça qui le rendait le plus intéressant, quoi. Cette espèce de contradiction entre cette puissance de scène, cet archétype d'homme, de macho, éminent rocker, et puis cet homme qui montre qu'il a des difficultés à vivre une vie d'homme, et c'est ce qui le rend aussi fraternel pour tous ses admirateurs.
Alors qu'il est vraiment au sommet de sa gloire, disons, c'est en 69, il y aura un passage à vide, vous le rappelez dans votre livre qui couvre toute son existence, Philippe Bodjo, dans les années 70, puis il va se reprendre, avoir un succès considérable, encore plus de spectateurs qu'il n'en avait dans les années 60. Comment expliquer cette longévité, justement, du phénomène, du mythe Johnny, comme on dit?
Je crois qu'il a été choisi. Il y a, j'insiste beaucoup, parce que maintenant que c'est un chanteur reconnu par les médias au niveau national, on oublie que c'est d'abord le chantre de la province. Et il y a une fidélité là qui est très populaire, très géographique, avant de recouvrir tout le pays. Et ces gens ont, à travers lui, le désir d'exprimer régulièrement leur propre existence à un moment des concerts, au moment des tournées. Ce sont des retrouvailles, pas simplement pour eux, mais pour montrer à la France leur existence. Et je pense que c'est une balise. Johnny Hallyday a été choisi comme une balise d'une existence commune depuis une quarantaine d'années.
Avec un succès égal depuis qu'il avait atteint le sommet de sa gloire, c'était en 1969, lorsqu'à 26 ans, il chantait cette chanson avec laquelle nous allons nous quitter. Je rappelle que mon invité Philippe Bodjo est l'auteur d'un livre dont je recommande la lecture, Johnny, un livre qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Vous avez pu entendre des extraits de l'excellent documentaire La légende de Johnny de Stéphane Benhamou, diffusé sur France 3 le 25 mai dernier. Stéphane Benhamou qui est également l'auteur des années 60 pour les nuls, publié chez First Edition, ainsi que deux archives pâtées de 62 et 63 issues du journal de votre année, disponibles en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230. 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Hervé Evano, Caroline Chausset et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. C'était la naissance d'une idole. Demain, dans 2000 ans d'histoire, en partenariat avec Le Monde hors série consacré à la Révolution française, le 14 juillet 1789.